Ça.
Remue ménage. Ménage, c'est Ondes Femmes sur Radio Zone 93,8 tous les mercredis en direct de 17h à 18h30. L'émission est rediffusée le jeudi à 10h et 15h. Remue ménage sur Radio Zone 93,8. Bienvenue dans Ondes Femmes, Radio Zone 93.8. Comme tous les mercredis, c'est la journée, la soirée et le lendemain jeudi consacré aux femmes sur Radio Zone. Nous vous rappelons que si vous le désirez, vous pouvez toujours nous appeler en direct pendant nos émissions. C'est très simple, un numéro de téléphone, le 50 40 51 41. Je répète, 50 40 51 41. 023 si vous appelez depuis Genève voisine ou 0033 depuis la Suisse romande de voisine. J'en profite de ce tout début d'émission pour vous faire un appel particulier. Vous savez que notre radio vit en partie avec les dons de ses auditeurs et de ses auditrices qui visent à supporter l'indépendance de notre radio. Eh bien, nous avons un appel particulier à vous adresser dans ce sens-là. Nous avons besoin d'un nouvel appareil lecteur CD. Notre radio n'a pas les moyens de se l'offrir. Si quelqu'une ou quelqu'un d'entre vous voulait participer à cet achat, eh bien, n'hésitez pas. Soit vous nous téléphonez tout de suite en direct dans l'émission au numéro que je viens de vous donner, soit vous écrivez Ondes Femmes, Radio Zone, 7 boulevard Karl Vogt, 1205 Genève. Et n'hésitez pas, nous en avons très très besoin. Ce serait un très beau cadeau de Noël pour Radio Zone très prochainement. Voilà, alors quel est aujourd'hui le menu de Remue Ménage, qui est l'émission d'Ondes Femmes de 17h à 18h30 que je vous présente avec grand plaisir chaque mercredi. Eh bien aujourd'hui, c'est notre rendez-vous mensuel avec la librairie des femmes L'Inédite à Genève. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'Annette qui a plusieurs livres à nous présenter. Bonsoir Annette.
Bonjour Catherine.
Alors aujourd'hui, Annette, on va prendre une écrivaine suisse que tout le monde connaît bien, je crois, parmi nos auditrices, j'en suis convaincue, c'est Yvette Scraggen.
Oui, on peut même dire qu'elle est genevoise.
Genevoise, carrément, oui. Et tu vas nous parler d'un autre livre, Villa Paradis, écrit par Régine Pernoud, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Alors tout de suite, après quelques notes de musique, eh bien, on donne rendez-vous à nos éditrices pour découvrir plein de nouveaux livres. C'est Mama Mozambique. Thank you. Mama Mozambique, pour commencer et mettre un peu de chaleur dans notre studio, il fait si froid dehors, cette bise est tellement glaciale et la nuit tombée tellement tôt de plus en plus qu'il est bon de se mettre un peu de soleil dans nos micros. Alors Annette, nous commençons tout de suite par proposer à nos auditrices et nos auditeurs le dernier livre d'Yvette Scraggen, La Punta.
Alors dans La Punta, il fait très chaud d'ailleurs, hein. Comme le titre l'évoque, c'est un roman qui se passe en Espagne. Et d'emblée, d'ailleurs, c'est un petit peu anachronique, si on veut, que Yvette Scraggen nous raconte une histoire qui se passe en Espagne, puisque tous ses livres jusqu'à maintenant, qui sont toujours centrés quand même pas mal sur ce qu'elle a vécu, elle, dans sa vie, se déroulent essentiellement à Genève, voire en Suisse. Mais bon, ça, c'est pour l'exotisme de La Punta, parce qu'effectivement, le début du livre situe la situation d'un couple retraité qui doit partir en Espagne, mais une bonne partie du livre évoque l'enfance de la narratrice, sa jeunesse, et là on retrouve les thèmes chers à Yvette Scraggen, qu'on a déjà découvert par exemple dans les années silencieuses où elle raconte sa vie, et je dois dire que chaque fois, même si on connaît déjà un petit peu l'itinéraire de cette femme, c'est toujours extrêmement intéressant, elle utilise toujours des matériaux de sa vie personnelle, mais elle en fait chaque fois un roman différent. Un roman en général très, très honnête, très pudique et en même temps très fort. Et chaque fois qu'on se met dans les livres d'Yvette Scraggen, je trouve qu'on est vraiment très, très satisfait et en communication avec quelqu'un qui est extrêmement intéressant et honnête.
Alors, c'est un roman très particulier quand même, parce qu'il met en scène un couple de retraités, c'est ça ?
Voilà. Alors, au début, nous apprenons que Vincent et sa femme doivent partir en Espagne pour la raison suivante. Et effectivement, ça met en scène d'ailleurs un problème très douloureux et très actuel qui existe autour de nous. Ce couple doit s'exiler parce que à Genève, son loyer va changer. Ils habitent une maison qui va être achetée par des promoteurs immobiliers. Et s'ils veulent rester dans leur quartier, dans leur appartement, le loyer sera beaucoup, beaucoup trop cher pour la pension qu'ils touchent. Alors, ils sont assez désespérés. Et suite à un certain nombre de contacts, ils décident de quitter la Suisse radicalement. C'est peut-être ça la partie la moins crédible, à mon avis, du livre, parce qu'on a l'impression qu'ils se décident vraiment sur un coup de tête. Et ils partent en Espagne, mais très, très loin, presque tout près de Gibraltar, en fait, très bas, à La Punta, c'est vraiment très, très bas dans l'Espagne, parce qu'avec leur pension, ils peuvent réaliser l'achat d'une petite maison dans une région touristique de cette côte.
Mais Annette, ça, c'est le choix que font quand même pas mal de personnes âgées en Suisse, non ?
Alors, je sais que c'est un choix qui se fait. Mais dans le livre, effectivement, ça se passe d'une manière tellement radicale, tellement brutale. Et d'ailleurs, justement, c'est le thème du livre. Ça sera quand même très difficile pour eux, cette transplantation. Et ça crée pas mal de difficultés. Donc, c'est exactement le thème du livre là qu'on aborde. C'est comment ce couple arrivera à passer la fin de sa vie éventuellement dans un cadre qui n'est pas du tout celui dans lequel ils ont vécu. Et c'est avec beaucoup de finesse que Yvette Scraggen nous présente ce problème. Alors je pourrais déjà vous lire un petit passage pour vous mettre en appétit et vous situer un petit peu le couple dont on va parler. En remontant la côte, je pense à la complicité des corps de Charles et Lydia, ce sont ses parents. Cette manière qu'ils avaient de s'attirer, comme s'ils étaient magnétiques. Deux parties d'un même tout. Moi, jamais je n'ai connu cela. Le corps de Vincent, après 40 ans de vie commune, mais presque étranger.
et lui non plus ne s'est jamais beaucoup occupé du mien. En dehors de ces étreintes, devenues rares au fil des années, qui nous rapprochaient brièvement. Son corps, je le ressentais comme opaque, un obstacle opaque qui m'empêchait de le trouver. Lui, le vrai Vincent, qui se retranchait pour mieux m'échapper, derrière cette chair épaisse, de plus en plus épaisse. Il fallait une maladie, une bronchite, un lumbago. Ma main découvrait, dans une odeur de pommade, le relief de sa peau sous ma paume. Un grain de beauté, une irrégularité, une tache. Tu devrais montrer ça à un médecin. Mais non, grognait-il, pressé de refermer sa veste de pyjama, de remonter son pantalon. Nous n'avons pas su nous servir de nos corps pour mieux nous aimer. Alors, on voit d'emblée, au début du livre, que la communication entre ces deux personnages est difficile, a été difficile toute leur vie. Et peu à peu, on va découvrir comment cette femme, qui est donc déjà âgée, va réussir quand même à communiquer avec ses voisins espagnols et à découvrir une certaine liberté de vie, d'action, qu'elle n'avait pas pu trouver dans sa vie extrêmement préservée, extrêmement casanière, qu'elle a menée à Genève dans sa relation avec son mari. Il y a dans ce livre encore une deuxième partie. Alors on suit, en somme, toute cette situation difficile d'adaptation en Espagne après ce brutal changement. Mais la narratrice évoque aussi son enfance. Et il y a plusieurs chapitres qui sont consacrés à des souvenirs de la petite fille qui vivait dans le quartier des Falaises. Alors on retrouve une fois de plus les lieux genevois. Et qui raconte comment peu à peu elle a grandi entre un père et une mère, enfant unique. Un père et une mère qui s'aimaient beaucoup, mais qui en fait ne s'occupaient pas tellement de cette petite fille et qui toujours a recherché l'amour. Et on sent très fort dans ce livre que cette femme, toute sa vie, a recherché une relation privilégiée avec quelqu'un, qu'elle a toujours le souvenir de ses parents qui vivaient vraiment l'un pour l'autre. Elle raconte d'ailleurs à un moment donné la mort du père qui est mort assez jeune et le désespoir de sa mère qui n'a eu plus qu'une envie en fait à ce moment-là, c'était rejoindre son mari dans la tombe et à quel point ça a été difficile. Donc il y a en fait plusieurs histoires qu'on suit dans ce roman et ça fait ces différentes trames qui sont chaque fois très profondément analysées.
Quand tu disais tout à l'heure, dans la première partie, c'est l'histoire du couple, est-ce que c'est aussi l'histoire de la femme et de l'homme? Parce que chacun va se raconter une histoire, leur façon de s'adapter à cette nouvelle vie, où on suit la femme en particulier.
Alors, c'est vraiment la voix de la femme. Et c'est elle qui donne en fait la parole à son mari, qui peu à peu nous le dépeint, nous brosse un petit peu son caractère. Mais c'est toujours la voix de la femme qui domine, ça c'est absolument sûr. Et dans ce sens-là, il y a une certaine subjectivité dans le livre, sans aucun doute. Mais en même temps, elle a un regard extrêmement nuancé sur les choses. On sent qu'elle essaye de comprendre tout ce qui se passe pour l'autre, mais on la sent effectivement beaucoup plus forte, beaucoup plus en prise sur la réalité. Et à la fin, bien sûr, je ne vais pas vous raconter la fin, parce qu'il y a plusieurs rebondissements qui sont tout à fait nouveaux à la fin. Mais effectivement, on sent que c'est elle qui découvre un certain nombre d'événements, un certain nombre de réalités et qui s'affirme de plus en plus. Mais c'est assez extraordinaire de voir comment cette femme qui, dans l'histoire là, a plus de 65 ans, arrive à ce moment-là à affirmer enfin ce qu'elle veut et qui n'a jamais pu le faire malgré une vie de jeune femme indépendante. Après la description de son enfance dont j'ai évoqué tout à l'heure, elle parle de sa jeunesse et on retrouve Yvette Gragen qui travaillait à la Croix-Rouge pendant la guerre, qui part à Paris pour aider des convois de réfugiés, qui communique avec, par exemple, de jeunes officiers américains qui, comme elle, devaient aider les réfugiés de la Croix-Rouge. Donc une jeune femme qui a quand même pu s'ouvrir à un monde seul, qui avait une formation solide pour l'époque, puisque c'était les années 40, toutes les femmes ne faisaient pas des études solides à ce moment-là, et qui, malgré tout, n'a pas réussi à vraiment choisir son existence. Elle a été toujours conditionnée encore par ce que ses parents lui disaient de faire. Et ça, c'est assez impressionnant, en fait, de voir que c'est uniquement vers la fin de sa vie qu'elle se dit quand même ça, je vais une fois faire pour moi.
Lorsque tu dis cela, Annette, ça me fait penser certainement à des femmes de la génération de ma mère, par exemple.
Hein. Probablement, comme la mienne, d'ailleurs.
Qui toutes réalisent fort tard ce qu'elles auraient aimé faire. Ouais. Et tu crois que Yvette Sgraggen a réuni un peu autour d'elle ces personnages, c'est un peu la réunion de témoignages de femmes qu'elle a dû entendre
Écoute,
autour d'elle.
Je pense que ça serait très intéressant de l'interviewer elle pour savoir. Mais je sais qu'elle est assez active dans un groupe de personnes âgées actuellement à Genève. Je crois qu'elle rédige des articles pour un journal destiné aux retraités. Et je pense qu'elle a l'occasion, elle, effectivement, de rencontrer beaucoup de gens de son âge et qui n'ont pas réalisé sa vie comme elle l'a faite. Parce que c'est une femme écrivain renommée, à juste titre, et qui, elle, a pu réaliser vraiment une œuvre, ce qui est quand même pas très courant dans les femmes de sa génération. Mais en tout cas, une œuvre romancée, une œuvre d'œuvre littéraire. Et je crois qu'effectivement, elle dit d'ailleurs dans un petit encart au début du livre que c'est un livre où la fiction se mêle tellement à la réalité qu'elle-même parfois ne savait plus très bien si elle écrivait un roman ou si elle racontait quelque chose de vrai. Mmh. Et je pense que c'est lié aussi au contact qu'elle a avec des femmes de son âge maintenant et qui effectivement sont devant finalement encore des choix difficiles, même en fin de vie.
Oui, parce que la réflexion sur la vieillesse, bon, on y arrive petit à petit, je suppose, et Yvette Sgraggen se trouve peut-être aujourd'hui, elle aussi, à son tour, confrontée à cette réflexion.
Oui, parce qu'elle est elle-même assez âgée, ça c'est sûr. Alors, pour en venir à notre livre La Punta, j'aimerais vous lire encore un passage où on voit la manière dont Yvette Sgraggen parle de l'Espagne d'aujourd'hui et de cette migration obligatoire que le couple dont elle parle a dû effectué. Elle raconte des promenades qu'elle fait le matin. Le plus souvent, je suis seule sur ces chemins. Sur l'un d'eux, le matin, je croise une femme en noir. Grande, maigre, elle marche vite. Agile malgré son âge, la démarche souple de certaines Africaines ou de ces femmes des Abruzzes qui portent de lourdes charges sur la tête. Elle descend la colline et parfois je la vois remonter le soir du même pas ailé. Il arrive que nous échangions un sourire. Je crois que j'ai découvert sa maison, petite, basse, enfouie sous un immense bougainvillier, au fond d'un jardin où poussent des orangers, des citronniers, un arbre de Judée et que borde un mur couvert de géraniums de toutes les couleurs. Un jour, je saurai suffisamment l'espagnol pour lui parler, pour lui demander de me raconter le village avant l'arrivée des promoteurs. Comment il a traversé la guerre civile? Comment il vit maintenant cette nouvelle occupation étrangère? Et moi, je lui dirai qu'un jour, dans un train suisse, en 1942 ou 43, j'ai rencontré un petit garçon blond tout bouclé que j'ai reconnu parce qu'on voyait souvent sa photographie dans des magazines. Il parlait espagnol et jouait avec un pistolet à amorce. J'ajouterai que cela me fait plaisir de le retrouver maintenant en effigie sur les pièces de monnaie et que chaque fois cet ancien souvenir me revient. Il me semble que nous aurons beaucoup de choses à nous dire, elle et moi. Ne quitte plus la villa. Je lui parle de l'automne, de l'hiver qui seront bientôt là, des mimosas, des amandiers en fleurs. Je vante la situation privilégiée de notre maison, à l'écart, avec cette vue sur les pins, les vignes et quelques bâtisses qui ne nous dérangent pas. Il désigne du doigt les deux tours construites sur la hauteur, près du cap. Et ça alors ? Il ajoute que cet infâme bâtiment rayé comme un zèbre à l'entrée du village ne peut pas le supporter. Tu ne le vois jamais. Je sais qu'il est là. Sombre, buté. Je dis que ces quelques erreurs datent du franquisme comme d'autres constructions monstrueuses qui défigurent le littoral. Ici, nous avons de la chance. Le développement a commencé plus tard, à un moment où l'on était attentif à l'environnement. D'accord, on a construit trop de bungalows, de villas, mais il m'interrompt. Tes socialistes étant chers Juan Carlos, bientôt tu seras plus chauvine que n'importe quel espagnol. Alors j'espère qu'avec ces quelques passages, vous avez pu apprécier notamment le style d'Yvette Gragen. C'est vraiment un livre qui se lit extrêmement facilement, mais on sent que chaque mot, chaque recherche d'adjectifs ou de verbes est vraiment le travail de l'écrivaine. Et c'est, je trouve, extrêmement agréable à lire dans ce sens-là. On découvre aussi à quel point, donc, une fois de plus, cette femme âgée recherche l'intégration dans un nouveau pays et à quel point, avec quelle délicatesse, elle s'approche en fait des gens autour d'elle.
Alors, on rappelle le titre du livre, La Punta, écrit par Yvette Sgragen, publié à quelles éditions, Annette ?
C'est les éditions de l'air.
Et que bien sûr, vous trouvez à la librairie L'Inédite, librairie des femmes à Genève.
On peut peut-être encore compléter en disant que vous trouvez, en plus de ce livre, les autres œuvres écrites par Yvette Gragen, qui sont notamment Cornelia, qui est un roman qu'elle a publié il y a 4 ou 5 ans, Les années silencieuses qui datent encore plus avant, mais qui sont donc le récit de sa jeunesse pendant la guerre, qui parle notamment du problème du réduit suisse. Et je pense qu'aujourd'hui, on a peut-être intérêt à relire un petit peu cette histoire et comprendre autrement ce qui se passe, peut-être. Et il y a aussi le livre qu'elle a écrit sur son père, qui s'appelle « De l'oubli », et qui est une recherche un petit peu autobiographique.
Voilà, et entre nos deux livres, eh bien, un poème dit par Jeanne Moreau et Maria Bethagne, qui est une chanteuse brésilienne.
Oh bien-aimée, quels yeux tes yeux, embarcadère la nuit, bruissant de mille adieux. Des digues silencieuses qui guettent les lumières, loin, si loin dans le noir. Oh bien-aimée, quels yeux tes yeux, tous ces mystères dans tes yeux, tous ces navires, tous ces voiliers, tous ces naufrages dans tes yeux. Oh ma bien-aimée aux yeux païens, un jour, si Dieu voulait, un jour, dans tes yeux, je verrai de la poésie, le regard implorant. Oh, ma bien-aimée, dans tes yeux.
Oh, minha amada, que olhos os teus são cais noturnos cheios de adeus. São docas mansas trilhando luzes que brilham longe, longe nos bereus.
Oh, minha amada, que olhos os teus, quanto mistério nos olhos teus, quantos saberos, quantos navios, quantos naufrágios nos olhos teus. Oh, minha amada, de olhos ateus, quem dera um dia quisesse Deus, eu visse um dia o olhar mendigo da poesia nos olhos.
Tous ces mystères dans tes yeux, tous ces navires, tous ces voiliers.
Jeanne Moreau et Maria Bethânia, chanteuse brésilienne, qui récite et chante un poème de Vinícius de Moraes. Alors, nous vous proposons maintenant, dans le cadre de notre rencontre mensuelle avec la librairie des femmes L'Inédite et avec la présence d'Annette ce soir, un autre livre, celui écrit par Régine Pernoud, Villa Paradis.
Voilà, alors on retrouve ici une dame âgée, plus âgée d'ailleurs que Yves Gragen. Régine Pernoud aujourd'hui est une dame qui a un âge vraiment respectable puisqu'elle est née en 1909 et qui elle aussi a une carrière d'écrivaine extrêmement importante. Si je vous lisais dans le livre que j'ai sous les yeux la liste de ses ouvrages, c'est absolument impressionnant. On connaît Régine Pernoud essentiellement parce que c'est une historienne très connue, qui a publié énormément de livres et qui est notamment spécialiste du Moyen-Âge. Elle n'est pas féministe au départ, mais c'est une femme engagée et notamment elle a écrit, elle s'est beaucoup intéressée à la condition de la femme à l'époque du Moyen-Âge, et notamment un de ses livres les plus connus, c'est « La femme au temps des cathédrales », qui nous a donné beaucoup d'informations sur le sujet. Aujourd'hui, c'est d'un autre livre que je vais vous parler, c'est les souvenirs de Régine Pernoud, et non pas quelque chose lié à sa connaissance du Moyen-Âge.